Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lydia a 23 ans et vit à Barcelone. Elle fait des études pour devenir laborantine. Son histoire est racontée par Mediapart dans une enquête de Lorraine Descartes. La première fois que Lydia décide de donner ses ovules, c'est pour meubler l'appartement de sa mère. Elle a réussi les tests psychologiques et physiques préalables et s'est lancée dans ce commerce ou ce don ou ce travail dont la rémunération est pudiquement nommée une compensation. Lydia dit que ni la stimulation, ni l'anesthésie générale nécessaire pour procéder à la ponction ne l'ont fait souffrir. La seconde fois, elle se sert des 1000 euros de compensation pour acheter une voiture à sa mère également. Les trois suivantes, Lydia garde l'argent pour payer son permis de conduire et financer ses études. Lydia est motivée par l'argent, mais elle est heureuse évidemment que son don permette à celle ou ceux qui le reçoivent d'avoir un enfant. À chaque fois, Lydia s'adresse à l'antenne barcelonaise de l'Institut Valencien de la Fertilité, une multinationale présente dans 13 pays, poursuit le site d'information en ligne, dont le chiffre d'affaires devrait approcher les 300 millions d'euros. Une limite de 6 dons étant fixée par une loi espagnole votée en 2006, Lydia devra s'arrêter après le prochain don. Grâce à elle, 5 enfants sont nés pour l'instant. Un répertoire national des donneuses et des donneurs, continue Lorraine Descartes, a été prévu par la loi pour en garder la trace, mais pour l'instant, il n'existe nulle part. Un prototype serait en cours de réalisation et le registre en place fin 2018, assure le président de la Société espagnole de fertilité. En attendant, Adila Benedjaizou, célibataire de 44 ans, a décidé, elle, d'avoir un enfant par fécondation in vitro. Elle s'est donc rendue en Espagne et a fait une première tentative avec ses ovocytes personnels. Après 14 jours d'attente insoutenable et un échec, elle se demande à présent si elle peut envisager de porter l'enfant d'une autre femme. PMA hors la loi, épisode 5, c'est un podcast en 6 épisodes d'Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
En fait, le docteur, il a dit qu'il ne pouvait pas avoir de bébé, parce que... En fait, il avait eu une idée. Et l'idée, c'était de se mettre ensemble avec une copine.
D'accord.
Puis après, l'autre, elle a la graine. Elle a la graine aussi. Après, elle va avoir la graine du papa et de la maman. Et après, elle a eu un gros ventre. Elle attendait. Et après... Ils ont eu un bébé.
Et toi, comment ça se fait que tu connais cette histoire?
On l'a lu un petit peu plein de fois.
Et est-ce que tu trouves ça bien, toi, comme histoire?
Oui.
Ouais? Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette histoire?
C'est quand le bébé, il est né.
Et tu vois, il est éjacule dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à... Hop, l'insérer dans le vagin. Ensuite, tu pousses au fur et à mesure et clic.
Je suis célibataire, en fait, et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront, comme elles voudront.
Je suis favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes
en
de
fait,
même
moi,
sexe.
Je ne suis pas née d'une étreinte.
Il y en a qui disent que c'est dégoûtant.
Jamais je me suis dit, même par rapport à mon homosexualité, ça ne va pas être possible.
Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
Procreatec, para español. Marqué uno.
Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur. Ma première tentative de fécondation in vitro a échoué. C'est une chose courante et je suis prête à faire un nouvel essai. Mais les différents médecins que j'ai consultés sont formels. À mon âge, mes ovules sont trop vieux et je risque de multiplier les échecs. Si je veux vraiment avoir un enfant, il vaut mieux que j'aie recours à une fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Et comme je suis célibataire, ce serait ce qu'on appelle une FIV double don. Ça signifie très concrètement qu'on prendrait l'ovule de Madame X, qu'on le féconderait avec le sperme de Monsieur Y et qu'on mettrait le résultat de cette rencontre dans mon utérus. L'enfant que je mettrai au monde dans ce cas-là n'aura aucun de mes gènes. C'est comme si j'étais la mère porteuse de mon enfant adoptif. Et j'ai du mal à accepter cette idée. Pourquoi ne pas adopter carrément dans ce cas-là? Moi, ce que je veux, ce n'est pas être enceinte, mais avoir un enfant, ou plutôt avoir mon enfant. Je sais que c'est ridicule, mais moi j'ai envie que cet enfant, il hérite de mes cheveux ou de ma myopie.
Bonjour.
Comme je ne sais vraiment pas quoi faire, je vais voir Pénélope. Pénélope est avec Mathieu depuis 17 ans, ils ont eu un premier enfant ensemble, et il y a 6 ans, elle s'est retrouvée devant le même choix que moi.
En fait, quand j'ai eu Séraphin, donc il y a 14 ans, ça faisait quelques années que j'étais avec Mathieu, et bon, on a eu Séraphin assez rapidement. Et puis, en fait, je n'avais pas eu encore mon retour de couche, et je suis tombée enceinte. Et ça, on a tout de suite adhéré, au moment où on l'a su, quoi, à cette idée qu'il allait avoir tout de suite un deuxième enfant et tout ça. Donc, je crois que Séraphin, il avait, 9 mois ou 10 mois, je sais plus. Et donc, je devais faire cette échographie pour ce bébé qui arrivait de manière bizarre, enfin, impromptu. Et on y va, et le mec dit « Ah, c'est bizarre, il y a pas de bébé, en fait. » Et il s'avérait que c'était une grossesse extra-utérine. Bizarrement, j'ai eu un deuil super difficile à faire. J'ai fait un lien hyper fort avec mon père, parce que mon père est décédé quand j'étais petite, quand j'avais 8, 7, 8 ans. Et en fait, j'avais calculé que l'enfant qui allait naître naîtrait en gros à l'anniversaire des 60 ans de mon père. Et donc, en fait, ça a été comme une espèce de deuxième mort de mon père ou deuxième abandon. Enfin, j'ai vécu comme un truc lié à mon père et comme s'il voulait pas renaître. Ou... Je raconte tout ça parce qu'en fait, ça a vachement joué sur la suite des événements. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait plusieurs fausses couches, j'ai refait une autre grossesse extra-utérine. Donc au bout de je passe 4-5 ans comme ça, au bout d'un moment, je commençais à avoir 38, 39. Donc ils ont commencé à faire des tests en me disant « Ah mais attention, la fertilité, là ça devient chaud. » Ils ont dit « C'est le moment où il faut commencer à faire des FIV avec vos ovules. » Et donc voilà, et donc j'ai passé cette année et demie, disons, à faire ça. Et au bout de un an et demi, en fait, le médecin dit « Là, nous médicalement, on considère que c'est fini. » Il faut passer à une autre solution, et donc les deux autres solutions, c'est soit d'adopter, soit de passer à un don d'ovule. C'est abyssal, en fait. C'est super compliqué, parce que ça fait des années qu'on cherche à avoir un deuxième enfant, que je sais que pour Mathieu, c'est super important, et moi, je peux pas faire un enfant avec un don d'ovule. Et je sentais intimement que c'était pas possible. Parce que, en fait, mon père, c'est un petit bâtard. Ma grand-mère, pendant la guerre, a eu une histoire d'amour avec un Vietnamien qui faisait ses études avec elle. Elle est tombée enceinte et elle a pensé qu'il allait se marier avec elle et qu'ils allaient avoir cet enfant ensemble et tout. Et en fait, lui, il a d'abord dit oui, puis en fait, il a été hyper lâche et puis il est parti. Il a dit non, en fait, je peux pas avoir cet enfant. Et il l'a abandonné. Et ma grand-mère, elle a rencontré un peu dans le désespoir comme ça un ami aussi, un autre ami d'études qui lui a dit mais si tu veux je te règle le problème, on se marie ensemble, nanana, etc. Et donc du coup, elle s'est mariée avec un mec qu'elle aimait pas et elle a toujours été attachée à son Vietnamien qui était parti. Et donc mon père, il a pris très tard. Il était le fils d'un Vietnamien. Il a appris quand pratiquement à ma naissance, en fait. Il s'est suicidé quand il avait 30 ans, quelques années après avoir pu enfin connaître son vrai père, le Vietnamien, qui était revenu en France après des années et qui est venu nous voir, que moi j'ai connu, du coup. Donc il y a eu une histoire assez compliquée avec sa paternité. Du coup, j'arrivais... Pour moi, je devais à mon père... d'avoir une filiation claire, de faire des enfants qui seraient la continuité d'une famille. Et donc, j'arrivais pas du tout à accepter l'idée que j'allais faire un enfant avec d'autres ovules et que du coup j'allais casser cette filiation. Donc ça a été un peu compliqué à prendre comme décision, mais à un moment j'ai décidé que non. Je peux pas en faire un deuxième, donc je dis ça à Mathieu, je dis en fait on peut pas en faire un deuxième, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Et donc là Mathieu dit ah là là, d'accord et tout, donc il dit ok. Et j'ai vu, je sais pas, dans sa manière d'être, dans sa manière d'accepter la chose, etc., que c'était hyper difficile à prendre comme décision, qu'il la prenait vraiment pour moi, mais que c'était très dur à accepter tout ça. J'essayais en fait de triturer tout ce truc autour de qu'est-ce que c'est d'être mère, d'être père, d'être fille, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, en faisant un don d'ovule, c'est comme si on était dans un type de filiation qui était justement en cours dans ma famille, qui parlait du fait que la filiation, c'est pas que de faire des enfants avec ses propres ovules et son propre patrimoine génétique et tout ça. Du coup, tout d'un coup, en fait, ce qui jusque-là m'avait paru comme une porte infranchissable, impossible et tout ça, est devenu l'inverse, en fait, de ce que c'était jusque-là. Et ça m'a fait changer d'avis.
Conversation avec Pénélope m'a fait basculer. Comme elle, j'ai perdu mon père très jeune, et puis j'ai eu un père de remplacement. Il est arrivé si tôt dans ma vie et il m'a aimé si fort que c'est devenu mon papa, sans l'ombre d'un doute. Prise dans l'ivresse des technologies de procréation assistée, j'avais oublié que je suis la preuve vivante que la filiation se bâtit avec bien d'autres matériaux que la génétique. Et puis, il y a une autre question sur laquelle Pénélope m'a éclairée. Après avoir bénéficié d'un don d'ovocyte en Espagne, Pénélope a eu une fille, Léopoldine. Je lui ai donc posé la question que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'a-t-elle raconté à sa fille ?
Un de mes énormes problèmes de faire un enfant avec un don d'ovule, c'était... Je ne savais pas, en fait, comment j'allais réagir avec mon enfant au moment où il me lancerait à la figure « mais tu n'es pas ma mère ».
Et du coup, toi, ce serait quoi ta réponse aujourd'hui ?
Ah bah du coup, je suis sûre que je suis sa mère et sa seule mère, en fait. Moi, j'ai toujours voulu raconter à Léopoldine comment c'était passé sa naissance, enfin comment elle était arrivée là et tout ça, qu'elle était née d'une manière un peu particulière, parce qu'en fait mes petits œufs à moi ils fonctionnaient plus et on n'arrivait plus à faire d'enfants, et que du coup il y avait un médecin et une dame qui avait donné des petits œufs pour qu'on puisse faire un enfant et tout ça. Quand je lui ai raconté cette histoire, elle a tout de suite vu une deuxième maman, en fait. Maintenant, ça commence à se régler un peu, mais pendant les deux dernières années, régulièrement, cette dame qui a donné l'œuf vient dans la conversation par des questions, par des défis à des moments. Il y a eu une petite période où c'était un peu difficile entre moi et Léopoldine, où du coup, elle brandissait ça comme épouvantail. Ah oui, de toute façon, je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais il y avait une deuxième maman, quoi.
Ouais.
Il y a vraiment clairement une deuxième maman. L'année dernière, on a été voir un psy en juin et c'était complètement génial parce que on a parlé beaucoup de ça, parce que du coup j'ai expliqué à la psy ce qui s'était passé et tout, et Léopoldine jouait, faisait ses petits trucs à côté et tout ça, l'air de pas trop écouter. Puis d'un coup elle dit mais pourquoi on lui dit pas à la dame que je suis née? Du coup, on a pu lui expliquer le concept d'anonymat, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y avait pas de raison qu'elle le sache, et nous, pas de raison qu'elle sache qui on était, que nous, on n'avait pas de raison de savoir qui elle était, que c'était fait comme ça, et qu'elle, elle n'attendait pas, en fait, qu'on lui dise, qu'elle n'attendait pas un enfant, que les gens qui attendaient un enfant, c'était nous, que c'était nous qui voulions un enfant, que c'était grâce à ça qu'elle était née, que on était ses seuls parents, enfin, voilà. Au bout du compte, sur les deux dernières années, c'est un truc qui est venu petit à petit, en fait, et qui a posé des trucs auxquels j'avais même pas pensé, quoi.
Coucou.
Ça va, mais les deux bêtes.
Je crois que Pénélope m'a donné un indice sur cette question qui me hante depuis le début, celle du récit. Ce que je pourrais offrir à mon enfant imaginaire, ce n'est pas un récit définitif, figé. Non, ce serait juste un premier récit qui pourra provoquer des malentendus, des questions, qui subira des changements. Un récit posé entre moi et cet enfant, comme ma mère a posé entre elle et moi le récit de la mort de mon père. Un récit qui finira par devenir une conversation, cette fameuse conversation sans fin qu'on a avec les gens qu'on aime. Pour la première fois, j'arrive à imaginer cette conversation. Pour la première fois, j'envisage de porter un enfant conçu par une autre femme.
Comment tu vas, Bibiche ?
Écoute, ça va, ça va.
C'est vrai ? Tu me dis toujours que ça va, mais...
Ah non, mais franchement, ça va. Les derniers jours, c'était vraiment pénible de ne pas savoir, en fait.
C'était lourd, oui, d'attendre comme ça.
Et en fait, je crois que je préfère savoir, même si c'est une mauvaise nouvelle, c'est moins, tu vois, ça me bouffe moins. Après, tu sais, je vais peut-être recommencer aussi plusieurs fois avec le don d'ovocytes.
Écoute, Bibiche, tu sais qu'on est derrière toi.
C'est gentil.
Tu te reposes le temps qu'il faut, mais je pense que quand tu le feras, il faudrait que tu sois dans des conditions plus zen. Là, entre ton boulot, les traitements, tout ça... Pas ce traitement déjà.
En fait, il y a une dernière chose qui me retient de me lancer. C'est la question de l'anonymat. Si je fais une FIV double don, pour mon enfant, ce sera la double peine. Car il ne saura rien de ses origines, ni paternelles, ni maternelles. J'ai pensé à rencontrer des gens de la Manif pour tous, pour leur demander leur avis. Et puis je me suis dit que je ne tenais pas vraiment à confier le destin de mon enfant imaginaire à des gens avec lesquels je n'ai rien en commun. Ce serait un peu comme de l'emmener goûter à Saint-Nicolas-du-Chardonneret.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Bienvenue.
Merci.
Je suis habillée comme ça parce que j'ai suis aux obsèques d'un donneur qui est décédé.
Ah, chut.
Tout à l'heure, ouais.
Un donneur de l'association,
ouais,
qui était membre de l'association.
Ouais,
mais je ne veux pas non plus parler avec quelqu'un qui me conforte forcément dans mon choix. Alors je suis allée voir Arthur. Arthur est un NIAD, c'est-à-dire quelqu'un qui a été conçu par insémination artificielle avec donneur. Et il est membre de l'association Procréation Médicalement Anonyme, une association qui milite pour la levée de l'anonymat des donneurs en France.
Mes parents ont essayé d'avoir des enfants, et au bout d'un moment, ils ont fait toute une batterie d'examens l'un et l'autre, et mon père a découvert qu'il était stérile. Et ils ont réfléchi à pas mal de pistes, notamment pour l'adoption, et puis c'est mon grand-père paternel qui a parlé de cette technique d'insémination artificielle avec un donneur anonyme à mon père, et mon père aimait beaucoup Georges David. Georges David, c'est le fondateur des Sécos.
D'accord, alors c'est quoi un Sécos ?
Alors un Sécos, c'est un centre d'études et de conservation d'ovocytes et de sperme humain. Au début, mes parents cherchaient à avoir déjà un enfant, ils ont eu ma grande sœur, et puis ensuite ils sont allés voir le Sécos, pour avoir un deuxième enfant, donc moi. Et donc, je suis né. J'ai souvent pensé à mon donneur pendant mon enfance, et il m'arrivait souvent de prier pour mon donneur, par exemple. j'espérais que tout allait bien pour lui, que voilà, puis je lui disais merci. Ne pas connaître mon donneur, ça me paraissait pas pensable, en fait.
Et donc, ça a été quoi votre réaction quand vous vous êtes rendu compte que cet interdit, en fait, il était institutionnel ?
Je l'ai très très mal vécu. Du coup, j'ai commencé par prendre rendez-vous chez un psy pour essayer de faire le tri, parce que ça me frustrait tellement que je me suis dit, bon, il faut que je fasse le tri entre ce qui vient de moi et que je peux éventuellement accepter, et ce qui vient pas de moi et ce sur quoi je peux ou pas agir. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, je suis allé voir deux, trois fois le Sécos. Et puis très vite, je me suis rendu compte que je ne trouverais pas d'alliés dans les Sécos. À la base, je voulais monter mon association et puis j'ai rencontré Pauline Thiberguin, donc une gynécologue qui avait monté une association. Je lui ai dit, bon bah écoute, ok, je monte pas mon association, je viens dans la tienne et puis je vais essayer d'être porte-parole.
Déjà, je voulais vous montrer un premier truc.
Alors, vous voulez montrer quoi sur votre ordinateur ?
Eh bien, je voulais vous montrer mon match.
Montrez-moi votre match.
Bienvenue dans...
Donc, vous avez, c'est dans le cadre de l'association, on vous a proposé ces tests,
Non, c'était dans cette pièce-là, ouais. Dans le salon, on s'est réunis, on était 10, mais tout le monde n'était pas adhérent à l'association. On avait commandé les 10 tests,
donc on les a reçus. On s'est réunis, on a tous craché dans le tube, on l'a refermé, on l'a renvoyé, parce que c'est déjà pré-posté, il n'y a pas à franchir.
Et ça coûte combien ?
Ben, ça coûte 100 balles. Et là, j'ai attendu 3 semaines pour avoir ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire mes résultats. Voilà, donc tout est en anglais, bon, ça c'est le truc pas cool. Donc moi, j'ai fait ce test pour cette catégorie-là, Ancestry Composition. Donc quand vous cliquez sur mon profil, on voit que j'ai 43% de French et German. Alors déjà, je pensais que French et German, c'était pas la même chose, mais pour eux, c'est la même chose. Du British, Irish. Alors du Broadly, ça veut dire, on sait pas. De l'Ibérique, de l'Italien, et encore du Broadly. Et là, par exemple, je vois quelqu'un qui m'invite à partager ses données génétiques pour pouvoir comparer. Et je vois Laura, Sergey is your first cousin. Je me dis, ah, ok. Et vous partagez 6,28% de gènes avec elle. Je vais sur LinkedIn, j'envoie un message. Et elle me dit, appelez-moi sur WhatsApp, ce sera plus facile pour discuter. Je l'ai sur WhatsApp, je lui explique mon histoire. Elle me dit, bon, je ne savais pas qu'il y avait un donneur dans la famille. Je ne vois pas qui ça peut être, mais tu peux retrouver mon arbre généalogique de toute ma famille et moi-même sur Internet. Sur un site qui s'appelle Ancestry. Je tombe sur une famille. Donc, sa mère, c'est Dominique. Mmh. Donc, le père de Dominique, c'est Robert. Il a un frère. Georges, Bernard et Gérard.
Il a 3 frères, en fait.
3 frères, seulement. Le seul qui avait un âge cohérent pour donner, c'est lui. Je me suis dit, bon, ben, je suis sûr à 80%. Mon donneur, c'est Gérard. Donc, j'y suis allé. Mais j'ai pas frappé à sa porte, contrairement à ce que tout le monde pense. Je suis allé voir ses voisins. Donc, j'ai découvert que ses voisins le connaissaient depuis plus de 20 ans. Et donc j'aurais dit, écoutez, me posez pas trop de questions. Une chose est sûre, c'est que j'ai un courrier hyper important à donner à votre voisin Gérard. Mais il faut être hyper discret. Parce que je ne sais pas du tout si sa femme est au courant de mon existence. Ils ont accepté la mission. Et donc, c'est le 25 décembre à 10h que mon téléphone sonne, et au bout du fil, c'est Gérard. Et puis je discute pendant un quart d'heure, et il m'explique qu'il comprend parfaitement que j'ai plein de questions, et il me propose la marche à suivre. Il me dit, c'est moi qui t'appellerai, tu vas noter toutes tes questions, puis j'essaierai d'y répondre à chaque fois, le plus possible.
Et c'est quoi votre contact avec lui aujourd'hui ?
Eh bien, on se parle tous les samedis à 10h pendant minimum une demi-heure. Le fait d'avoir retrouvé mon donneur, ça m'a permis d'atteindre un niveau de sérénité jamais atteint avant. Ben moi, j'ai la sensation d'être passé de l'autre côté du miroir. C'est comme si j'avais été dans une espèce de fond de décor, de miroir, un peu bloqué, avec des contraintes inexplicables. Et que là, je suis devenu comme tout le monde. J'ai un père, j'ai une mère et un géniteur, et seulement maintenant, au lieu de dire mon donneur, ben je dis Gérard.
L'histoire d'Arthur et Gérard est jolie, mais elle est exceptionnelle. Les membres de PM Anonyme sont pour la plupart encore à la recherche de leur donneur et ils en souffrent. En fait, ce que je dois accepter, c'est que je ne peux pas régler à l'avance toutes les questions que pourrait se poser mon futur enfant. Aucun parent ne le peut.
Para español, marque 1. Per l'italiano, digiti 2. For English, press 3.
J'appelle la clinique espagnole pour entamer une nouvelle tentative de fécondation in vitro, avec don d'ovocytes cette fois. Mais ça signifie de recommencer un traitement, de retourner en Espagne et d'attendre à nouveau une grossesse, sans garantie que ça marche.
Bonjour, j'aimerais parler à Feriel, s'il vous plaît.
Oui, c'est de la part de qui ?
C'est de la part de Adila.
Ne quittez pas, je vais voir si elle est disponible.
Merci.
Show me the way to heaven's gate. Show me the way and I'll walk. Show me the way to heaven's gate. Show me the way and I'll walk. Tell me the way to redemption's door. Turn ticking on the clock. Tell me the way to redemption's door. Answer me when I knock. Jerusalem, it can't be that far. I'll follow them to Jerusalem. Just tell me who they are. Show me the way to heaven's gate. Show me the way to walk. Show me the way to heaven's gate. Listen when I talk.
PMA hors la loi, c'était l'épisode 5 de ce podcast en 6 épisodes signé Adila Benedjaizou et réalisé par Cécile Lafont. Vous pouvez le télécharger en totalité dans un podcast spécifique qui s'appelle PMA hors la loi si vous voulez écouter le début ou connaître la fin tout de suite des aventures d'Adila Benedjaizou et de son futur bébé ou pas. Merci à Arthur et à l'association Procréation Médicalement Anonyme et remerciements encore plus spéciaux à Léopoldine et à Pénélope. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire.
Mistakes a man can make, been on this road so long. All the mistakes a man can make, must they all be wrong? Show me the way to heaven's gate, now that I've forgot. Show me the way to heaven's gate, show me the face of God.
À 15h sur France Culture, la compagnie des auteurs, c'est avec Mathieu Garrigou-Lagrange, mais dans quelques instants, entendez-vous l'écho, c'est avec Tiphaine de Roquigny.